Vous êtes sur RTL.
Monde de la politique. Donc en cela, je trouve ça intéressant. Et c'est aussi un exercice où il fallait s'adapter au code de ce média. C'est-à-dire que c'est du YouTube, il faut que ça soit punchy, il faut que ça soit vu, il faut rentrer dans les codes de ce média. Et en cela, c'est nouveau, mais c'est plutôt bien. Et même le président...
Guillaume, je vous coupe parce que la liaison n'est pas terrible. Pour tout vous dire, je vous coupe et on essaye de la sécuriser. Alors, Paola est là, et comme Paola a 14 ans, et si vous nous écoutez régulièrement, Paola...
Allô ?
Oui, Paola, je crois que le micro de Charles était ouvert aussi. Paola, bonjour Paola, vous êtes collégienne,
bonjour,
vous nous appelez régulièrement.
Absolument.
Et c'est intéressant d'avoir votre avis. Bonjour Paola.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors moi, je suis horrifiée simplement par cette vidéo. Je ne comprends pas, en fait, comment on fait pour en arriver là ? Ça dissocie totalement le rôle d'un président et de sa personne, ça rend totalement politique une vidéo, qu'on le veuille ou non. Surtout que ces deux youtubeurs, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais ils ont déjà eu des liaisons avec La République En Marche, avec Emmanuel Macron. Par exemple, en avril 2020, lorsqu'ils ont fait une collecte de fonds pour la Fondation des Hôpitaux de France, qui, le rappelle, a été présidée par Brigitte Macron, ont déjà eu donc ce lien-là. Et puis ensuite, avec la FAGE, donc une association qui...
Donc vous voulez dire que McFly et Carlito, ils sont plutôt pro-Macron, c'est ça ?
C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'en fait, sous le nez de plein de Français, ils ont déjà eu des liens avec son parti. Donc c'est ça que je trouve étonnant. Et qu'une fois de plus, on a une vidéo qui confond totalement une partie de plaisir. Et puis un coup politique immense derrière pour Emmanuel Macron.
Vous trouvez que c'est un coup politique, par exemple ? Vous trouvez que ça le sert, Paola ?
Bien sûr, bien évidemment.
Mais pourquoi ça le sert ?
Il n'y a même pas de doute.
Pourquoi ça le sert ?
Il n'y a même pas de doute parce qu'en fait, Emmanuel Macron, dans cette vidéo, joue une carte en fait, de gentillesse, de sympathie. Mmh. Par exemple, j'imagine que vous l'avez visionné, il appelle Mbappé. Donc si Emmanuel Macron appelle Mbappé, si c'est une personne qui aime bien le foot, qui doit être sympathique. Donc, qu'est-ce qui rime avec sympathique et public jeune ? Eh bien, je vais peut-être voter pour lui à la prochaine élection. Moi, il y a un extrait qui m'a énormément choquée durant cette vidéo. C'est que c'était autour du youtubeur McFly qui devait raconter son anecdote. Il a dit « Monsieur le Président, je vais vous faire un aveu, je n'ai pas voté pour vous au premier tour. » Et je ne comprends pas comment cette séquence a fait pour ne pas choquer. Il a fait passer cette anecdote comme quelque chose de grotesque, et puis vu comme une erreur, comme quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et ça insinuait totalement en fait le fait que Macron était le bon candidat à cette époque-là.
Bah merci Paola. La liaison là aussi n'était pas exceptionnelle et vraiment je demande de nous pardonner. Ça arrive bien évidemment. Vous êtes peut-être dans la nature Paola. Paola et Guillaume, on va essayer de prolonger ce début de conversation. McFly et Carlito, en tout cas ça fait parler et finalement c'est aussi souvent un début de la com de faire parler. Moi ce qui m'a étonné, j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on parlait pas du fond. Donc je peux comprendre, évidemment, qu'on veuille s'adresser à un public jeune, mais à ce moment-là, que ces jeunes soient un intermédiaire pour parler, pourquoi pas, des problèmes d'aujourd'hui. Et là, ce n'était pas le cas. Alors, à tout de suite, on continue évidemment le dialogue, et à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Et je salue Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir au 3210. Emmanuel Macron s'est livré au concours d'anecdotes des deux youtubeurs, McFly et Carlito. Une vidéo vue 8 millions de fois, des blagues autour du foot, un appel à Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ?
Je pense que cette anecdote, elle est fausse.
Ben, on va lui demander.
Non.
Oui, allô ?
Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille.
Impossible.
Ça, c'est beau.
On a aussi eu des demandes particulières.
Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée ?
Allez-y.
Merci beaucoup.
Il y a différent.
Elles sont belles, tes roulades.
Vous faites pas mal des roulades, vous.
Et à la fin, un concert de métal dans les jardins de l'Elysée. Le chef de l'État est-il dans son rôle? Dégrade-t-il la fonction présidentielle? Est-ce au contraire efficace pour séduire la jeunesse? Eh bien, pure communication, lance Philippe sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole pour obtenir le vote des jeunes. Comment ce groupe de métal a-t-il pu accepter de venir à l'Elysée? Demande Pierre-Jean. Pathétique, selon David. Pour Martine, la présidence se dégrade de jour en jour. J'ai mal à ma France. Mais allez, il faut vivre avec son temps, répondent à nous sur nos réseaux sociaux. Ah, ça m'a fait rire, nous dit aussi Marc. Le président a bien le droit de se lâcher de temps en temps.
C'est drôle parce que je me souviens des dîners de Giscard pour... J'étais pourtant pas bien grand, mais vous n'imaginez pas à l'époque combien ça faisait parler. Giscard s'invitait chez des familles françaises. Effectivement, tout le monde y voyait de la com. Alors, je rappelle quand même McFly et Carlito. C'est les deux youtubeurs ont mis en ligne leur tant attendu concours d'anecdotes fit le directeur de la Gaule. La contrepartie d'un deal passé avec le président de la République en début d'année. Et en février dernier, le chef de l'État avait promis de participer à ce format qui est l'un des plus connus de leur chaîne. Si les deux hommes... 6,5 millions d'abonnés sur YouTube réalisaient une vidéo sur les gestes barrières, ce qu'ils ont fait. La règle du concours d'anecdotes est simple, chacun raconte à tour de rôle une anecdote cocasse et le camp adverse doit décider si elle est vraie ou fausse. Le perdant de cette battle, comme on dit, s'engage alors à réaliser un gage. Le gage d'Emmanuel Macron, c'est disposer un petit cadre avec la photo des deux youtubeurs lors de la prochaine allocution, potentiellement celle du 14 juillet. Et le gage des youtubeurs, c'était monter à bord d'un avion de la patrouille de France lors de cette même cérémonie. Il y a eu 4-4, donc ex aequo. En d'autres termes, personne n'a perdu, personne n'a gagné. Donc en théorie, les deux gages devraient être réalisés. Jérémy, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci, vous êtes éducateur sportif à Cholet.
Voilà.
Votre sentiment sur ce que vous avez vu. D'abord, est-ce que vous avez vu les 36 minutes?
Alors oui, tout à fait, je suis allé voir. Et justement, j'allais vous dire ça, parce que je pense que finalement, on fait un débat autour de ça et... Mais je pense que c'est une récréation pour notre président. C'est un moment qui a dû durer, allez, à tout casser, 1h30 avec le tournage. Et puis ensuite, il est retourné à ses dossiers. Mais pour les gens de ma génération, Pascal, je pense pour les plus de 20 ans, cette séquence-là, il a fallu aller la chercher. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'avais jamais vu de vidéo de McFly et Carlito. J'en ai parlé justement à mon fils, Cédric, rappelez-vous, qui était intervenu. Il ne connaît pas juste de nom, de réputation, mais il n'a jamais vu de vidéo. Donc en fait, je rejoins un petit peu Paola là-dessus quand elle dit que ça s'adresse à un public, allez, on va dire de, je sais pas, de 10 à 16 ans, hein, mais c'est des gens qui ne votent pas en plus. Donc le message est adressé à une frange de population qui ne sont pas concernés encore par les échéances présidentielles. Donc à mon avis, les gens de plus de 20 ans, 25 ans, ont dû aller la chercher, la vidéo. Moi, je ne les suis pas sur YouTube. Ça représente 6 millions de personnes quand même, ce n'est pas rien. Mais ça doit être, allez, pour une majorité des jeunes de 12 à 16 ans. Donc finalement, c'est une récréation, ça n'engage à rien. C'est un deal gagnant-gagnant. Le président donne une image... positive, dynamique, comme lorsqu'il s'était entraîné un jour avec l'Olympique de Marseille. Ça fait penser à ses présidents, Kennedy et tout ça, qui donnent une image un petit peu jeune, dynamique, ou comme l'avait fait Giscard à s'entraîner à Chamalières, là-bas. Voilà, donc ça fait un petit peu tendance. Mais voilà, ça me fait penser à la séquence de Montrouzy avec Mitterrand. Vous êtes chez Brand, monsieur le président. Ben voilà, et là, il a voulu faire sa séquence chez Brand, mais ça s'arrête là. Moi, ça me fait plus sourire qu'autre chose. Je pense que les jeunes de 14 à 16 ans, voilà, ont peut-être rigolé, ils l'ont montré à leurs parents. Allez, puis ça s'arrête là.
Écoute, j'entends ce que vous dites. Je pense que effectivement, c'est une bonne analyse. Mais vous dites ça s'arrête là et faut. Peut-être que lorsqu'un président prend la parole, ça soit utile, il y ait
oui,
peut-être un peu de pédagogie.
J'aurais aimé, vous en avez parlé tout à l'heure Pascal, j'aurais aimé effectivement, ou alors il aurait fallu aller plus loin, et là pour le coup ça aurait été intéressant, c'est que McFly et Carlito se mettent dans la peau entre guillemets de jeunes de leur âge, parce que finalement eux ils s'adressent à un public jeune, mais c'est des gens de ma génération qui doivent avoir pas loin de 40 ans, hein. Donc 40 peut-être, je connais pas exactement leur âge, mais finalement on aurait aimé qu'il la joue un petit peu moins court de récréation et qu'il la joue peut-être un petit peu plus à poser des questions de débat de société pour les jeunes. À la limite, vous allez dire que j'ai des références anciennes, c'est souvent ce que mes proches me reprochent justement, mais comme l'avait fait Balavoine avec Mitterrand dans une émission où là il était là à taper du poing sur la table, on aurait aimé à la limite qu'il prenne une parole avec des questions un peu plus de fond. Parce que là c'est, excusez-moi, hein, mais c'est un petit peu la cour d'école, quoi. C'est la cour de récréation.
Bah, c'est une... Oui, il y avait de la séduction, en fait. Il y avait une séduction, une volonté de montrer une image souriante, détendue, voilà, proche des jeunes, etc.
La séquence du hard rock à la fin dans les jardins de l'Élysée, ça met mal à l'aise tout le monde, quoi. On sent bien. Je pense que le cabinet de l'Élysée, bon, ils se sont réunis, ses conseillers, ils ont dû dire, bon, ça serait bien que tu le fasses, c'est une image dynamique, tu vas t'adresser, on va te voir sur un angle un petit peu plus fun, c'est la fin du Covid. Oui, ils ont réfléchi de toute façon, hein. Je pense pas que ce soit fait comme ça, c'est quand même quelque chose de réfléchi, cet outil de communication. Mais je pense que peut-être Emmanuel Macron aurait peut-être voulu une ou deux questions comme ça, qui aurait, comme il l'avait fait sur TikTok, je crois, il y a très peu de temps, là, il avait participé à un débat, il me semble, avec des lycéens ou des collégiens, je crois, où il y avait eu des questions de fond, pour le coup. Bah, on aurait peut-être apprécié que sur la séquence de 36 minutes, on puisse avoir peut-être une phase un petit peu plus sérieuse et puis une phase un peu plus détente. Voilà. Après...
J'entends là aussi ce que vous dites, et c'est toujours intéressant de voir la perception que vous avez eue, et c'est ça qui importe finalement, et c'est pour ça que cette émission existe, c'est comment les gens ont perçu ce moment, et finalement je pense que vous l'avez perçu de la meilleure des manières, mais la seule chose qu'on peut se dire à la fin, c'est à quoi bon ? À quoi bon ? Est-ce que c'était utile ? Est-ce que c'était mieux de le faire que de ne pas le faire ?
Merci. Je vous dis, je pense qu'au final, voilà, ça s'arrête là. Il est retourné à ses dossiers après. Moi, je pense qu'il a bien fait de la jouer avec, dans sa démarche, effectivement, de donner une image dynamique. Bon, il le fait avec eux. Est-ce que c'est le meilleur des choix ? Je ne sais pas. Mais bon, ça fait partie des outils d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'embêtera plus, parce que là, on parle en fait d'un mélange du président de la République, hein, un homme important de l'État, avec un média comme YouTube. Bon, là, je vous dis, ça s'arrête là parce que demain, on n'en parlera plus. On va retourner à nos dossiers Covid, à nos machins. Bon, ça va s'arrêter là. Puis je vous dis, c'est la plupart, c'est des ados qui ont regardé ça.
Moi, ce qui m'embête plus... Ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'adultes qui ont regardé, forcément.
Qui ont été la chercher, Pascal. Qui ont été la chercher.
Oui, il y a beaucoup de reportages qui ont été faits. Je regardais hier soir, par exemple, sur les grands médias, TF1, France 2, il y avait des sujets qui étaient consacrés à ça. Merci en tout cas, Jérémy. Merci beaucoup.
Bonne journée, Pascal.
Merci, on va marquer une pause, une nouvelle. Ça vous fait fortement réagir, mais il n'y a pas que cela dans l'actualité. Il y a Lille, si vous souhaitez, hein, Lille, champion de France. Quand même extraordinaire, Lille. Lille, ça doit avoir 4 ou 5 fois moins de budget que le Paris Saint-Germain. À l'arrivée, Lille est champion de France. C'est un des rares sports où le meilleur ne gagne pas toujours, si tant est que le Paris Saint-Germain soit une meilleure équipe que Lille. En sport individuel, c'est le genre de choses qui existe moins, disons-le. Vous pourrez parler également de la plainte de Gérald Darmanin sur Audrey Pulvar. C'est un des sujets du jour. Nous revenons dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Laurent Tessier.
Et nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Gérald Darmanin a annoncé hier soir qu'il portait plainte contre Audrey Pulvar après des propos tenus sur la manifestation policière la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. Écoutez, la tête de liste des socialistes régionales en Ile-de-France chez nos confrères d'info.
Une manifestation à l'appel de policiers en colère, soutenue par l'extrême droite, à laquelle participe un ministre de l'Intérieur qui marche sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés, sur la représentation nationale, en train d'examiner un texte de loi concernant la justice. C'est une image qui, pour moi, était assez glaçante et je ne souhaitais pas y participer.
Le ministre de l'Intérieur l'accuse de diffamer la police. Une plainte qui vise aussi une vidéo de juin 2020. Audrey Pulvar dénonce le racisme dans la police en France lors d'une manifestation à Paris en hommage à George Floyd.
La police et le racisme dans la police, c'est évidemment aujourd'hui Théo, c'est évidemment Adama.
Les avocats d'Audrey Pulvar ont annoncé porter plainte à leur tour contre le ministre de l'Intérieur et Bernard se pose une question sur la page Facebook de l'émission. Gérald Darmanin n'a-t-il rien de mieux à faire ? Mais Thierry s'interroge aussi, que pense Audrey Pulvar des agressions quotidiennes contre les forces de l'ordre ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous attendons vos appels dès maintenant au 3210 3210.
Résumons-nous, Charles de Gaulle parlait à la France, Georges Pompidou parlait aux Français, François Mitterrand parlait aux esprits, Jacques Chirac parlait à tout le monde et Notre président parle donc à McFly et Carlito. Nous sommes avec Charles, qui est enseignant à Montpellier. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Écoutez, il y a un super enchaînement, parce que dans ce que vous avez dit, je pense que je vais épiloguer un tout petit peu dans... Vous allez voir. Mais enfin, voilà, moi je pense que dans un premier temps, c'est un exercice de communication creux et ridicule, qui n'apporte aucune plus-value à la fonction présidentielle. Voilà. Pour moi, ça s'apparente à une soirée entre amis qui se lance des défis. Et justement, moi je pense que l'humanisation du président... ça nuit à la fonction présidentielle et c'est une forme de désacralisation. Voilà. Et là où je vous rejoins, où j'enchaîne quelque part avec ce que vous venez de dire, c'est que finalement c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que nous avons les présidents que nous méritons. De moins en moins cultivés, de moins en moins brillants. Ils n'ont pas une vision de la France. Ce sont juste des gestionnaires, pas toujours compétents d'ailleurs. Et je pense que cet exercice de communication d'opportunisme électoral visant les jeunes est affligeant. Voilà. Vont-ils élire un président sur sa capacité à faire des jeux de société, sur sa capacité à mentir, puisqu'il s'agit de statuer sur la véracité des anecdotes qu'il raconte. Enfin, franchement, voilà, je trouve ça affligeant. Voilà.
Oui, mais Charles, convenez que c'est la vie qui a changé et que les gens réclament peut-être moins de pompe, moins de majesté, moins de solennité. Prenons l'exemple, par exemple, de la photo officielle du président de la République. Charles de Gaulle est en queue de pie avec croix d'honneur et il est habillé comme on s'habillait à l'époque, et Georges Pompidou également. Valéry Giscard d'Estaing est le premier qui va ôter cet habit-là, cet habit protocolaire, pour un costume. Et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, le président de la République ne portera-t-il plus de cravate. Donc la société va vers plus de simplicité, elle réclame, les gens réclament cela. Moi j'entends souvent, notamment sur les démocraties du nord de l'Europe, beaucoup de nos compatriotes apprécient un Premier ministre qui prend le métro, qui se balade en vélo, qui n'est pas dans le même état d'esprit que la représentation en France.
Oui, alors, mais là, vous ne parlez que de la forme.
Bien sûr, là, je parle que de la forme, tout à fait.
On est d'accord, donc il faut bien qu'il y ait un fond. Moi, si vous arrivez à me dire, si vous arrivez à me dire quel est le fond dans la vidéo de M. Macron,
c'est de vouloir créer de la proximité avec les jeunes, quel que soit le sujet qu'on aborde. Parce que ce n'est même pas le sujet politique. C'est un exercice de séduction pour qu'au fond, la jeune génération regarde ça, s'amuse et dise « Ah, le président, il est rigolo quand même. Hein. Il est comme nous, il sait se marrer comme nous, il raconte des anecdotes comme nous. »
Justement, moi je trouve que le président n'a pas à être comme eux. Ce n'est pas dans sa fonction. On n'a pas à baisser la fonction présidentielle à ce niveau-là. Le président, il doit proposer du fond, il doit aborder des sujets. C'est quand même quelqu'un qui mène les affaires du pays, bon sang.
Non, mais il y a discussion, parce que où est la verticalité, où est l'absence de paroles rares qui avait été théorisée par Jacques Pilan, et au départ du quinquennat, on imaginait que Emmanuel Macron serait dans cette optique-là. Où est la cérémonie, non pas d'investiture, mais le soir de l'élection, quand il est tout seul devant la pyramide du Louvre, qu'il marche seul, qu'il y a de la musique, etc. On n'est plus dans le même registre.
J'entends bien, mais ça n'empêche pas d'avoir du fond, d'aborder des idées, d'aborder ne serait-ce qu'une idée sérieuse, si vous voulez, ou une proposition. Il n'y a pas de fond, c'est ça qui me gêne.
J'entends ce que vous dites. Et c'est d'ailleurs, c'est quelque chose qui se dessine depuis quelques minutes. Merci en tout cas, Charles.
Oui, allez-y. Non, mais c'est juste, je voulais rajouter quelque chose. Vous disiez, oui, les gens, les présidents qui ne portent pas de cravate, etc., mais ça ne leur empêche pas d'être brillants sur le plan des idées et sur le fond.
Non, mais la société est moins corsetée à tous les niveaux qu'elle ne l'était. Et j'ai le sentiment que effectivement les gens réclament ça, mais c'est vrai aussi dans les entreprises. Et vous faites une photo d'une entreprise il y a 40 ans, tout le monde est en costume cravate, et aujourd'hui les plus jeunes sont en basket, jean et t-shirt. Très souvent, en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais donc on va vers une société qui aime moins. Alors, je ne sais pas si c'est la contrainte. Là, je ne veux pas juger en plus. Hein, je le constate.
Mais alors, est-ce que c'est bien pour un président? Voilà.
Ben, c'est la question la France, que je vous pose.
D'une grande puissance, est-ce que c'est bien, justement? Ben,
c'est mieux que de faire n'importe quoi, comme certains chefs d'État l'ont fait dans d'autres pays et dans le monde entier. C'est sans doute. Oui, c'est se mettre au niveau de.
Ouais. Ben, moi, je ne suis pas sûr que ça amène une plus-value particulière.
J'en suis pas sûr non plus. Mais je me fais un peu l'avocat du diable. Je n'en suis pas sûr non plus, je vous ai dit. C'est amusant. Voilà. Je ne suis moi, pas sûr qu'il faille parler aux jeunes en leur parlant
non,
comme ça.
Plus.
Mais bon,
non,
après,
moi non plus. Moi, je pense qu'il en va de sa crédibilité aussi, quelque part, sur le plan de la communication. Parce que tout en s'adressant aux jeunes, il s'adresse aussi à tout le pays, puisque c'est repris dans tous les médias. Donc,
exactement, tout le monde en parle. Mais peut-être que demain, le futur président de la République entrera à l'Élysée en trottinette, sans tapis rouge ni garde républicaine. Peut-être. Ça sera ça le monde de demain. Trottinette, c'est l'allusion à notre ami Greg Caradoni, mais il n'est pas là aujourd'hui. C'est Boris Pirédou qui est là. Il a pris quelques jours de vacances, Greg Caradoni. Mais voilà, nous, on a connu les DS, le monde ancien, je l'ai dit, la pompe, les carrosses, pourquoi pas. Et puis, le président de la République entrera à l'Élysée en trottinette un jour. 13h29. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, il y a d'autres sujets aujourd'hui.
Amis Lillois, nous vous attendons au 32-10. Lille, sacré champion de France de Ligue 1 hier soir après sa victoire 2-1 à Angers. Des milliers de supporters se sont rassemblés pour fêter la victoire malgré le couvre-feu. Est-ce bien raisonnable? Vous étiez présent sur place hier soir. 7 personnes ont été interpellées. Le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, était l'invité de RTL Midi.
Le seul sujet que j'ai eu, c'est les images qu'on a vues hier soir, les débordements de liesse qui n'étaient absolument sous aucun contrôle et qui dépassaient toutes les mesures qui ont été mises en place pour ce déconfinement progressif qui a démarré là, le 19 mai. Donc des rassemblements, la fin des mesures barrières utilisées. Donc un souci néanmoins au sein de cette grande joie.
Je peux comprendre cette envie de fêter le titre, nous dit Julien sur nos réseaux sociaux. La ville attendait ça depuis des années. Les supporters de foot ont-ils des passe-droits, demande Fred. Le couvre-feu n'est pas respecté, tout comme la distanciation physique. Et les masques sont en option. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10. Parlons aussi de l'Eurovision. Barbara Pravi a terminé à la deuxième place avec sa chanson « Voilà ».
Moi j'en sors, mais c'est même pas que j'en sors gagnante, c'est qu'en fait ça m'a changé la vie et ça me l'a changé sans dénaturer à aucun endroit la personne que je suis. C'est quand même formidable.
Vous vous êtes vue victorieuse ?
Oui, bah, je crois qu'on peut pas. C'est-à-dire on est dans le jeu, donc à un moment donné, bien sûr, quand on est en plus aussi proche, ce serait mentir que de dire oh non, moi pas victorieuse jamais.
L'Italie a remporté le concours musical avec un groupe de rockers, mais polémique. Depuis samedi soir, le chanteur va se soumettre à un dépistage de drogue après une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On le voit durant la cérémonie dans une posture assimilée par certains internautes à une prise de cocaïne. L'artiste nie catégoriquement. Vous pourrez réagir au 3210 3210 sur votre téléphone.
Alors ce samedi 22 mai, vous le savez sans doute, Audrey Pulvar a déclaré au micro de France Info une manifestation à l'appel de policiers en colère, soutenue par l'extrême droite, à laquelle participe un ministre de l'Intérieur qui marche sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés en train d'examiner un texte de loi concernant la justice. C'est une image qui, pour moi, était assez glaçante. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec Laurent Tessier. Il se trouve que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé de porter plainte. Il l'a écrit sur Twitter. Les propos de Madame Pulvar dépassent le simple cadre d'une campagne électorale et viennent profondément diffamer la police de la République. Je porte plainte au nom du ministre de l'Intérieur. Et figurez-vous que Audrey Pulvar elle-même a porté plainte puisque elle a annoncé ce matin via ses avocats qu'elle allait déposer plainte aujourd'hui. Donc votre avis nous intéresse forcément là-dessus. Nous sommes avec Cédric. Bonjour Cédric, vous êtes policier.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Ben, je vous en prie. Concernant Madame Pulvord, je pense qu'elle est complètement irresponsable de tenir des propos comme ça en ce moment. J'étais en train de relire en même temps que je vous écoutais ces déclarations. Alors, il y avait une unité syndicale pour la police pour une fois, parce que c'est rare quand même chez nous. Et elle nous dit que c'est une manifestation qui lui paraît glaçante, Mais où c'est qu'elle a vu qu'on avait marché sur l'Assemblée nationale? Je pense qu'elle est complètement irresponsable de tenir des propos comme ça pour une personne qui veut se présenter aux élections régionales en Île-de-France, qui concentre quand même beaucoup de problèmes sociaux, etc. Quand elle voit les images à la télévision et sur les médias des voitures qui brûlent, des ouvriers qui ne peuvent pas aller au boulot le matin parce que leur voiture a brûlé, elle en trouve quoi? Que c'est glaçant aussi? Ben, c'est sûr qu'une voiture qui brûle, c'est peut-être moins glaçant que des policiers qui manifestent pour leur sécurité et pour rendre aussi hommage à tous nos collègues qui sont en train d'être tués, abattus. On peut employer tous les termes qu'on veut.
En tout cas, elle a décidé de porter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse, Audrey Pulvar.
Elle a que ça pour se faire parler.
Alors, ce qui est drôle, c'est quand on reprend tous les termes, donc une manifestation à l'appel des policiers en colère, ça c'était vrai, soutenue par l'extrême droite. Il y avait Olivier Faure, par exemple, du Parti Socialiste, et il y avait aussi des gens des Républicains. Il y avait en fait, il n'y avait pas la France Insoumise, mais il y avait des hommes politiques de tous côtés. Donc c'est factuellement, ce qu'elle dit n'est pas juste. À laquelle participe un ministre de l'Intérieur qui marche sur l'Assemblée nationale. Donc là, elle fait de la politique, hein, disons-le. Ça peut s'entendre, hein, elle a le droit de faire de la politique. Jean-Luc Mélenchon, parfois, caricature la position qui n'est pas la sienne, la position adverse. Donc ça aussi, ça peut s'entendre. Pour faire pression sur les députés en train d'examiner un texte de loi, là encore, elle fait de la politique. Et puis, c'est une image qui, pour moi, était glaçante. C'est encore de la politique. Mais au fond, elle a aussi le droit, d'une certaine manière, de dire cela. C'est-à-dire que c'est le débat. Vous dites qu'elle est irresponsable, mais c'est votre avis de le dire, bien évidemment. Oui. Mais c'est aussi une forme de liberté d'expression. Ce dont on parle là, c'est la plainte. Est-ce que pour vous, ça justifie de porter plainte de la part de Gérald Darmanin?
Alors, très honnêtement, moi, je serais plutôt parti de dire on laisse tomber, on arrête tout. Parce que c'est faire trop d'honneur à Mme Pulvar d'en parler ainsi, parce que là, on va encore en parler pendant des jours et des jours. Elle va se faire de la pub politicienne et c'est tout. Mais bon, elle ne le mérite pas. Elle le mérite pas.
C'est ça qui paraît étonnant parfois dans ce gouvernement, c'est que parfois, les actions sont contre-productives.
Tout à fait.
C'est ce que vous semblez dire.
C'est-à-dire qu'au
nom
absolument
de la liberté d'expression, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Audrey Pulvar, c'est pas le problème, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce que ça tombe sous le coup de la loi?
Ça, c'est pas
sûr. Je parle pas de la morale.
Non. Mais par contre, est-ce que Mme Pulvar a eu un seul mot de tristesse, de compassion vis-à-vis des collègues qui sont morts?
Mais j'entends bien ce que vous dites, mais si vous me permettez, je veux pas la défendre, hein, mais c'est pas le sujet.
Oui, c'est pas le sujet.
C'est pas le sujet. Après, c'est de la politique. Jean-Luc Mélenchon, chacun est dans son couloir. J'allais dire, donc c'est ça qui est intéressant dans cette séquence-là. D'abord, c'est la pénalisation de la société, parce qu'elle elle porte plainte, lui porte plainte, tout le monde porte plainte dans cette société.
Bien sûr, mais de toute façon, pour moi, c'était pas non plus la place du ministre de venir sur cette manifestation. C'est une manifestation de la base, au départ, de tous les policiers de France.
Vous trouvez un point d'accord avec Audrey Pulvar, vous n'en tirez pas les mêmes conséquences, c'est pas glaçant pour vous, mais vous partagez un point de vue qu'il ne devait pas être là.
Il ne devait pas être là. Aucun homme politique ne devait
policier,
être là, sauf en tant que citoyen, mais pas en tant qu'homme politique. S'il voulait apporter le soutien en tant que citoyen français, tout à fait. Aucun homme politique ne devait se revendiquer de son propre parti ce jour-là. Pour moi.
Bah écoutez, merci en tout cas Cédric de cet échange. Vous êtes policier à l'aéroport.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Et nous allons laisser passer une pause. Et puis nous allons revenir, parce que là aussi, c'est un sujet qui fait causer, comme on dit. Et Mathéo nous attend.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Mathéo est étudiant en droit, il habite dans le Calvados, il voulait évidemment intervenir sur ce sujet, la plainte de Gérald Darmanin contre Madame Pulvar. Les propos de Madame Pulvar dépassent le simple cadre d'une campagne électorale et viennent profondément diffamer la police de la République, a-t-il écrit. Je porte plainte au nom du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, ce serait intéressant, vous êtes étudiant en droit, Mathéo, est-ce qu'il y a matière à poursuivre dans les propos d'Audrey Pulvar? Bonjour.
Bonjour Pascal. Effectivement, la question est intéressante au regard du droit, mais pas simplement qu'au droit, à l'histoire du droit. Vous disiez, Pascal, que on peut tout dire parce que elle fait de la politique. Ben là, non, elle va au-delà de la politique. Quand on utilise des phrases comme « marcher sur l'Assemblée nationale », « marcher sur l'Assemblée nationale », il y a Napoléon qui marche sur le directoire, il y a Mussolini qui marche sur Rome, les conséquences politiques sont réelles, il y a de la violence, c'est de l'intimidation. Là, on ne marche pas, on manifeste. Une manifestation, c'est aller voir les lieux assez symboliques pour les médias, mais marcher sur quelque
mais
chose...
Vous avez raison, mais là encore, vous avez raison d'un point de vue purement formel, mais convenez que...
C'est de la diffamation. C'est de la diffamation.
Vous pensez que c'est de la diffamation ?
C'est de la diffamation.
Sur le plan juridique, moi, je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais ça fait partie, me semble-t-il, dans le jeu politique. On sait que parfois, les attaques de chaque camp sont rudes. Ça fait partie du débat politique. On sait qu'il peut y avoir une part de métaphore également dans
là, le problème, Pascal, c'est
dans
que
les phrases qui sont dites.
À autre chose. On est face à un problème où les gens, à mon avis, un jour vont devoir rendre des comptes. Et je crois profondément au constat qui est actuellement fait par des gens qui sont témoins du réel, témoins de la société, les flics, les pompiers, les gendarmes. Et je pense que bientôt, il peut y avoir une vraie confrontation entre civils, on peut le dire, et honte à ceux qui n'ont pas adhéré au constat des policiers, qui n'est pas un constat belliqueux, qui est une sonnette d'alarme pour protéger les Français. Et aujourd'hui, elle dit que cette manifestation était soutenue par l'extrême droite. Mais honte à ceux qui ne sont pas venus à cette manifestation-là. Honte à une partie de la gauche qui a refusé d'ouvrir les yeux. Honte à une partie de la gauche qui préfère jouer le jeu du secret de Polichinelle. Aujourd'hui, ben, c'est tout à l'honneur de la droite, de l'extrême droite, d'Olivier Faure d'être venu.
Mais même Anne Hidalgo qui travaille avec André Buller. Donc c'est ça qui est tout à fait étonnant dans ce qu'elle dit, puisque cette manifestation, beaucoup de gens de droite et de gauche étaient présents.
Oui, mais enfin, Pascal, vous savez comment elle se définit, Audrey Pulvar ? Comment elle se définit ? Vous allez sur son compte Twitter. Comment elle se définit ? On peut résumer à 4 mots, à 5 mots. C'est elle-même qui le dit, écolo-féministe à vélo ou en métro. Donc vous imaginez bien qu'on ne pourra pas aller très loin dans la réflexion. Elle se réduit à ça.
Bon, non, bah, écoutez... Là, non, pas... Alors moi, je suis ennuyé parce que, je vais vous dire, je la connais, Audrey Pulvar. J'ai travaillé
avec
elle.
Mais personne aujourd'hui. Elle était très bien avec Ruquier, mais aujourd'hui, non. C'est plus personne. Elle veut faire parler d'elle.
Bon, je la connais un peu. C'est une consoeur, c'est une journaliste qui a été dans plusieurs maisons. Donc je suis toujours un peu ennuyé de parler d'elle parce que je la connaissais comme une camarade, forcément, de rédaction. Donc, je ne la réduis pas à ce qu'elle met sur son compte Twitter, écolo, féministe, tel que vous l'avez dit. Elle a une carrière de journaliste avant cela, qui prouve sa qualité, d'une certaine manière.
Oui, Pascal, prenez votre exemple. Vous êtes un journaliste, vous avez certainement des opinions, vous faites de l'information. Mais il y a une chose que vous mettez au cœur de votre activité, et cette émission-là en est l'exemple même. C'est la confrontation d'idées, et même si des fois je pense qu'on a des connivences, vous n'hésitez pas en tout cas à dire à des auditeurs avec qui vous n'êtes pas d'accord, je ne suis pas d'accord, et ceci et cela.
Oui, là, mais j'ai aussi, je pense que j'avance pas masqué, vous voyez bien que sur certains sujets, je peux être taxé à juste titre d'ailleurs sur les mœurs, sur la littérature, sur l'histoire, sur l'ADN de la France, je penche plutôt vers un certain conservatisme. Je peux être plus progressiste sur des sujets de société comme la PMA, la GPA, le mariage pour tous, etc. Mais il y a un angle, effectivement, modestement, je suis attaché, si vous voulez, à l'histoire de France, à sa littérature, à ses grands hommes d'État, à ce qu'on appelait parfois le roman national, et ce qui te taxe parfois de conservateur. Mais tu n'es jamais qu'une seule chose, sauf à être idéologue.
Mais tu es toujours
pluriel.
Et vous avez complètement raison, mais vous en êtes, c'est pas vous caressant le sens du poil, hein, Pascal, mais je vous porte bien dans mon cœur, mais effectivement, vous êtes considéré comme un journaliste plutôt droitisant, mais vous mettez à cœur de votre activité la confrontation de l'idée, et surtout la parole à la personne qui est en face. Là, Audrey Pulvar, elle n'est pas là-dedans, elle est dans la stigmatisation.
C'est une femme politique, mais moi je suis journaliste, on ne fait pas le même métier, c'est une femme politique, elle n'était pas comme ça lorsqu'elle était sans doute journaliste.
Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a été un mauvais journaliste qu'on est obligé de devenir un mauvais politique.
Non, ne disons pas ça, parce qu'elle a fait une carrière, il ne faut pas dire ça, parce que elle est restée pendant 20 ans dans des maisons aussi prestigieuses que France Info, France Inter, elle a été à CNews, elle a été à France 2, bon, elle a été à FR3 où elle présentait le journal de 19h. Donc elle a une carrière, elle a une carte de visite journalistique qui mérite simplement, comme tout à chacun, une forme de respect, voilà.
Mais est-ce que ça légitime ses propos ? La réponse
mais
est non.
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Bon, merci Mathéo, en tout cas.
Merci à vous, Pascal.
Et maintenant, on va parler. Voilà. On fait une pub ou une pause ou... Allez, une pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Elle est deuxième à l'Eurovision, mais elle a vraiment gagné les cœurs parce que sa chanson est superbe, sa prestation était très réussie. Et puis surtout dans les interviews, elle dégage quelque chose de lumineux, d'énergie, de bienveillance, de sympa. Et même la manière dont elle a accepté cette deuxième place, je l'écoutais hier soir sur France 2, c'était vraiment... c'est une chouette fille. Voilà ce qu'on a envie de dire, et une belle chanteuse. Alors Laurent Marcy qui est avec nous, il nous donnera peut-être les coulisses. Bonjour Laurent, parce qu'on a envie de savoir les coulisses, parce que ces Italiens qui remontent quand même à la fin, ça, vous me direz comment c'est possible. Mais nous sommes avec Ingrid, qui habite Vannes et qui voulait nous dire un mot sur cette Eurovision et notamment sur la polémique qui existe. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors oui, ce que je voulais dire, je trouve que cette polémique, elle est complètement injustifiée. Les Italiens, alors après, vous avez vu les images tout comme moi et tout comme des millions de gens, il n'y a rien qui prouve déjà que l'Italien s'est drogué. Ça après... ils verront s'ils font le test. Mais ils ont été élus par un public, par des professionnels. Donc, il faut faire le discernement entre la prestation vraiment pour laquelle ils ont été choisis. Et après, s'ils ont des dérives personnelles, je cautionne pas. On se drogue pas. Si vraiment c'est le cas, on se drogue pas à l'écran. Mais derrière, quand on voit le nombre d'artistes, y compris français, que ce soit des chanteurs, des acteurs, des écrivains, qui assument se droguer... ça leur empêche pas d'avoir du talent, ça leur empêche pas d'avoir du public, donc je trouve que cette polémique est totalement injustifiée.
Bah écoutez, c'est en même temps, elle est révélatrice du moment où il y a un désir de morale qui existe.
Exactement.
Et pourquoi pas, hein, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un qui a pris de la cocaïne peut être célébré comme un chanteur qui gagne un prix international
dans ce
voilà, c'est une question.
Dans ce cas-là, il question. Faudrait faire un test antidopage avant leur prestation, comme on peut faire autour de France, comme on fait dans les... Au lieu de leur faire un test PCR, on leur fait faire un test pour voir s'ils sont drogués, s'ils ont bu ou quoi que ce soit. On sait rien des autres candidats, ce qu'ils ont fait avant ou pendant ou après. Donc, il y a un doute quand même.
Bon, et vous avez aimé cette chanson italienne ? Parce que moi, elle ne m'a pas convaincu, pour tout vous dire.
Non, honnêtement.
Franchement, là, je suis quand même très, très surpris de cette chanson italienne.
Si
elle ne m'a pas bouleversé.
J'aurais pas voté pour eux. De toute façon, j'aurais pas voté pour l'Eurovision. Mais je trouve que c'est un procès d'intention qui est fait après sur des. On subodore qu'il s'est drogué. En plus, l'organisation de l'Eurovision a dit qu'ils avaient quand même retrouvé du verre cassé. Donc l'excuse et ils veulent même se faire tester, donc je trouve qu'il y a de la bonne foi, donc
ben
j'ai
merci
du mal à
Ingrid.
Croire à cette polémique et je la trouve mal placée.
Bon, Laurent Marcy qui a donc suivi la soirée, bien sûr, d'abord les coulisses, expliquez-nous pourquoi les Italiens reviennent du fond de la course tout d'un coup alors que la France est bien placé.
Mystère des votes, c'est le public hein, qui décide à 50% en tout cas. Voilà. Après, le groupe était donné favori, ils étaient en tête chez les bookmakers. Pourquoi eux ?
Vous nous avez dit que c'était Barbara qui était en tête vendredi.
Non, Barbara était en deuxième position chez les bookmakers. C'était
ah
les
oui,
Italiens,
c'était eux les
oui,
Italiens.
C'était Italie.
Mais
Italie.
Elle vous convainc cette chanson ?
Après, il y a des gens qui ont aimé, manifestement, puisqu'ils ont voté pour les Italiens.
Mais vous pourriez, par exemple, vous l'avez retenue, la mélodie ?
Non, personnellement, non.
Franchement, je suis incapable alors que voilà, ça, je peux la chanter. Bon, en tout cas, on a découvert, et c'est ça le plus important, une personnalité, mais tout à fait étonnante.
Avec Barbara ?
Oui.
Bien sûr, mais depuis le début, on explique cette jeune femme est lumineuse, elle est brillante, elle a une voix, elle a aussi prouvé quelque chose samedi soir, c'est qu'il n'y avait pas énormément de tralala autour d'elle, c'est-à-dire il n'y avait pas un décorum totalement surréaliste, et je trouve que c'est bien parce que ça ramène l'Eurovision à ses fondamentaux, c'est un concours de chansons. Voilà. Et elle a terminé. Sa deuxième place est totalement méritée. Évidemment, on aurait préféré qu'elle gagne. Mais c'est une très jolie place. 30 ans qu'on n'était pas à cette deuxième place.
Et je trouve qu'il y a quelque chose. Alors, n'y voyez pas malice, bien sûr, surtout dans les débats qui sont menés régulièrement ici avec les auditeurs. Mais c'est très français ce qu'elle a fait.
Oui.
Je trouve que même dans quelque chose de dépouillé, d'ailleurs certains ont parlé de Piaf, il y a quelque chose de très français qui nous touche beaucoup.
Mais quand on va à l'Eurovision et qu'on interroge les fans étrangers qui sont là, comment ils voient la France ? Ils nous voient avec un béret sur la tête, une baguette sous le bras, et c'est l'image de Montmartre. Et finalement, Barbara, elle a surfé aussi sur ça, sur ce côté, sur toute cette tradition de la chanson française, de la grande chanson française.
Puis avec de la gouaille.
Ouais, avec de la gouaille. Et puis on l'a dit, il y avait aussi un retour du français à l'Eurovision. Le Suisse a chanté en français, Barbara chantait en français.
Il y avait trois chansons françaises.
Il y avait un titre français, il y avait Je me casse qui était un titre français. Mais ça, voilà, il y avait quelque chose, il s'est passé.
En revanche, ça n'en finissait pas les votes. Hein, parce qu'entre la fin du concours et le premier vote, il se passe combien ? Une heure quasiment ?
50 minutes exact.
Ah non, mais ça n'en finissait pas.
Il faut comptabiliser.
Tu voyais défiler les 26, ils les ont montrés 4 ou 5 fois, les 26, t'en pouvais plus. Restez avec nous parce que Yannick est là. Yannick, vous êtes allé jusqu'au bout samedi de la soirée ?
Ah mais je vais vous dire, je suis allé même plus loin puisqu'il y avait un reportage qui succédait au prix de l'Eurovision. Je me suis couché à 2h30 du matin. Vous imaginez, à 63 ans, c'est une épreuve presque.
Bon, et vous avez été séduit ?
Je suis très heureux de pouvoir passer à l'antenne et je voudrais être ce Français presque anonyme pour féliciter une nouvelle fois Barbara Pravi qui nous a fait une prestation qui avait d'un talent fou quoi. J'avoue que c'est une étoile aînée ou presque, mais l'avenir nous le dira. Mais je crois pas beaucoup me tromper. Les présélections qu'on a pu avoir ont déjà démontré que elle se détachait du lot évidemment. Et puis quel bonheur d'avoir des chansons chantées en français. Et qu'on sorte d'un stéréotype. On était sur un stéréotype jusqu'à présent avec Barbara Pravi. Effectivement, vous auriez une coupure de courant sur la scène. Eh ben, vous aviez rien qu'une torche et puis Barbara Pravi qui chantait. Elle aurait été élue effectivement première de cette sélection et de ce grand moment de chanson.
Voilà. Alors, on va marquer une pause.
Oui, on va marquer une pause.
Parce que ça va être le flash, figurez-vous, de 14h. Bon, on poursuivra évidemment cette discussion. Je rappelle que c'est le groupe Maneskin et sa chanson Ziti et Buoni. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Ziti et Buoni. Ziti et Buoni. Il y avait 180 millions de personnes quand même. Tiens, je vais demander la traduction italien-français sur Google parce qu'on a ça maintenant rapidement avec la traduction. Et c'est Olivier Bois qui va venir pour le flash. Et ça sera même Hortense Crépin, figurez-vous, qui va venir. Et nous nous retrouvons dans une ou deux minutes. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Et on continuera évidemment la discussion sur cette Eurovision avec Yannick. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec Hortense Crépin.
L'Agence régionale de santé des Hauts-de-France recommande aux supporters du LOSC de se faire tester ces prochains jours. Et cela après les scènes de Liesse rassemblant plusieurs milliers de personnes hier sur la Grand Place pour fêter le titre de champion de France des Lillois. À 16h30, un bus à Impérial va défiler dans les rues de la ville après la victoire du club 2-1 à Angers pour la 38e et dernière journée de Ligue 1 de football. Et puis Lyon acte le départ de son entraîneur Rudy Garcia. L'OL qui termine 4e et se contente d'une place en Ligue Europa avec Marseille, 5e. Devant Paris et Monaco iront en Ligue des Champions. Nantes, barragiste, va rencontrer Toulouse jeudi et dimanche pour tenter de conserver sa place en Ligue 1. Enfin, autre départ désormais officiel, celui du technicien strasbourgeois Thierry Loret. L'actualité, c'est aussi le gouvernement français qui dénonce un acte de piraterie de la part de la Biélorussie. Après le détournement d'un avion pour le faire atterrir à Minsk et arrêter un opposant, les ambassadeurs de l'OTAN vont se réunir demain. En Moselle, à Hayange, un homme activement recherché par la police. Cette nuit, il a tué sa femme de 22 ans de plusieurs coups de couteau. Condamné pour des délits routiers, il purgeait une peine de détention à domicile avec un bracelet électronique qu'il a arraché en prenant la fuite. Au moins 115 000 professionnels de santé emportés par le coronavirus, selon l'OMS. Son patron souhaite que 10% des habitants de chaque pays soient vaccinés d'ici septembre. Et puis, c'est inédit, aucun joueur du Real Madrid présent dans la liste espagnole pour l'Euro de foot. Et surtout, le défenseur et capitaine de l'équipe nationale, Sergio Ramos, Emeric Laporte, récemment naturalisé espagnol, sera lui présent. La météo avec des pluies soutenues et une dégradation orageuse d'ouest en est. Des rafales de vent vont atteindre 60 à 70 km/h sur un quart nord-ouest. 16 degrés à Nantes, 17 à Paris et 22 à Lyon. Les courses à Longchamp, départ à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 10, le 4, l'As, le 3, le 14, le 9. La dernière minute, c'est le 14. Attention, le 2 est non partant. 14h02 sur RTL et la suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Hortense Crépin.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
On termine avec Yannick qui a été époustouflé par Barbara Pravi, comme nous tous.
Oui, alors donc si vous voulez, oui, effectivement, j'étais époustouflé par sa prestation et comme la réflexion que je me faisais, elle chante une chanson qui commence par « Écoutez-moi ». La différence entre l'Italie, c'est « Entendez-moi » et la France, c'est « Écoutez-moi ». Il faut faire la différence, c'est tout. Entendez-moi, entendez-moi. On est sur une, on va dire, une prestation avec beaucoup de bruit, je trouve. L'Italie, pour moi, ne méritait pas. On ne retiendra pas la mélodie de cette chanson. Enfin, en tout cas, moi, français, je la retiendrai pas. Par contre, je pense qu'il y a des millions de téléspectateurs qui retiendront la mélodie de Barbara Pravi, même si elle est chantée en français, ce qui était de toute façon un vrai bonheur.
Ben merci beaucoup Yannick. Alors Ziti et Buoni, qui est le titre de la chanson de Maneskin, ça veut dire « taisez-vous et tenez-vous correctement ». Et Damiano David, qui est le chanteur du groupe Maneskin, a accepté de se soumettre à un dépistage de drogue. Et de nombreux téléspectateurs et internautes avaient signalé un comportement intriguant du musicien pendant le concours, suspectant une consommation de drogue, et il va subir un test dès son retour en Italie. Le groupe a fermement rejeté les allégations portant sur un usage de drogue, a précisé l'Union européenne de radiodiffusion. Et les images en direct ont montré le chanteur se baisser le nez contre sa table, et celui-ci a nié, expliquant s'être penché car son guitariste venait de briser un verre. « Je ne me drogue pas », a assuré Damiano David lors d'une conférence de presse qui a suivi l'événement. « S'il vous plaît les gars, ne dites pas ça vraiment, pas de cocaïne, s'il vous plaît, ne dites pas ça », etc. Alors Laurent Marsic, qu'est-ce que vaut cette enquête, et est-ce que, en clair, l'Eurovision pourrait destituer le groupe Maneskin?
Non, parce que ça, alors a priori non, ça n'est jamais arrivé. Il y a pas, c'est pas, en plus c'est même pas prévu dans le règlement. Ce qui est prévu sont des sanctions financières. C'est déjà arrivé. C'est arrivé à Tel Aviv lorsque, au moment du décompte des points, il y avait eu le groupe islandais qui avait brandi des drapeaux en forme d'écharpe, d'un drapeau palestinien, en faisant lever la victoire, etc. Ce geste avait été hué par le public, et l'Eurovision a pris, alors plusieurs mois après, c'était au mois de fin septembre, ils avaient pris des sanctions financières. On ne connaît pas le montant. C'est ça la pratique en général de l'UER, de l'Eurovision.
Mais donc le classement ne va pas changer.
Non.
Bah, merci, c'est important évidemment de le dire. Didier est là, bonjour Didier.
Bonjour Pascal.
Vous voulez peut-être rebondir sur ce que vient de dire à l'instant Laurent?
Oui, justement, je voulais vous dire que d'abord je vous remercie d'avoir pris mon appel.
Je vous en prie.
J'étais quand même particulièrement écœuré, je dirais presque, choqué du résultat de ce concours Eurovision. Je voulais aussi séparer les deux polémiques, parce que la polémique par rapport à la prise éventuelle de substances, pour moi, ça n'a rien à voir avec celle dont on parle par rapport au résultat. Bon, après, l'enquête déterminera s'il y a eu prise de substances ou non. Mais par rapport au résultat de ce concours Eurovision, je trouve que c'est vraiment à l'image d'une société qui évolue peut-être pas forcément dans le bon sens. Je trouve que cette chanson est médiocre. Les interprètes avaient des attitudes provocatrices, irrespectueuses, insolentes, donnant des images un petit peu déjantées.
Bah, c'est le rock'n'roll, hein. C'est pas nouveau, ouais, franchement. Bah, bon, dans les années 60, c'est le genre de choses qu'on pouvait dire aussi sur les nouveaux groupes de rock qui arrivaient après des choses plus sages.
Oui, mais alors à ce moment-là, ne faudrait-il pas faire un concours Eurovision avec chaque catégorie musicale à part ? Parce que bon, comme le disait Yannick, l'auditeur précédent, je suis d'accord avec lui. On ne retiendra pas cette chanson-là.
Bah oui, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Laurent Marsic.
Quand Lordi gagne l'Eurovision, le groupe finlandais de heavy metal, oui. La chanson est. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute, mais chacun pourra penser ce qu'il veut. Mais cette chanson. Moi, personnellement, cette chanson, je l'ai trouvée absolument abominable. Ce sont des personnages qui se présentaient, vous savez, avec des têtes de monstres.
Bien sûr, on les a vus l'autre soir, là, c'est théorique.
Qui gagne l'Eurovision, pourquoi ? Mystère.
Bah oui.
Bien sûr, les goûts et les couleurs, je suis d'accord.
C'est-à-dire mais que vous mettez, et c'est toujours. Si vous me permettez, vous posez un point de vue moral en disant des attitudes choquantes. Et ça. C'est ça qui est compliqué avec des artistes. Est-ce que la morale entre dans le critère ou dans le jugement qu'on doit avoir sur une œuvre ? Il nous revient immédiatement le nom de Serge Gainsbourg. Quand Gainsbourg brûle un billet de 500 francs à la télévision, c'est pas très moral.
Enfin, ça a quand même fait polémique pendant des années, voire des décennies. On en parle encore aujourd'hui.
Oui, mais ça n'enlève rien à son immense talent. C'est toujours la même question entre l'artiste et son œuvre. Et là, c'est des choses légères, parce que parfois, c'est des choses beaucoup plus lourdes.
Oui, mais par rapport à ce groupe italien et cette chanson, franchement, je trouve que c'est une chanson qui n'est pas... Ce n'est pas une belle chanson.
Alors ça, je suis d'accord avec vous, mais manifestement, tout le monde ne pense pas comme nous. Moi, elle ne m'a pas bouleversé, mais bon...
On aura quand même constaté qu'après le vote des jurys professionnels, c'est la Suisse et la France qui étaient positionnées en première et deuxième.
Mais c'est ce que j'ai posé à Laurent, mais il n'y a pas de loup, manifestement. J'imaginais qu'il allait nous dire qu'il y avait un loup.
L'Italie était à la 4e ou 5e place, et c'est à la suite d'un vote populaire que cette chanson a été propulsée première. Bon, et là, je dis vote populaire, mais au sens, excusez-moi, péjoratif du mot populaire, quoi.
Merci, Didier. On va marquer une pause, et puis Laurent va pouvoir rebondir sur ce que vous dites. Et puis Didier reste avec nous également. C'est le jeu. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Laurent Marsic, spécialiste de l'Eurovision depuis tant d'années. Il est possible que vous terminiez votre carrière sans jamais avoir couvert un chanteur français. Parce qu'en 77, évidemment, vous n'étiez pas là.
J'avais 7 ans. Non.
Voilà, vous étiez petit. Donc, je vous souhaite, vous savez, c'est comme les journalistes sportifs qui n'ont jamais vu un Français gagner Roland-Garros. La dernière fois, c'était en 83, je pense à Isabelle Langer. Et c'est comme les journalistes spécialistes de cyclisme qui n'ont jamais vu un Français gagner le Tour de France. La dernière fois, c'était Bernard Hinault en 85. Donc, je vous le souhaite, cher ami.
Non, je voulais répondre du coup à l'auditeur. Je pense que sur le vote, pourquoi les Italiens ? Je pense qu'il y a des gens, enfin, moi je le vois et je réagis aussi comme ça quand je vais à l'Eurovision, c'est qu'on a envie, il y a un public de l'Eurovision qui a envie d'avoir de l'atypique, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'écoutera pas forcément le lendemain à la radio. Les Italiens, c'est le cas et c'est ce public-là qui a voté en majorité. Et on l'a vu, pour vous donner un exemple, sur l'Australie, qui est le pays invité depuis quelques années, parce que plus gros fan club chez eux, etc. Donc ils sont invités de l'Eurovision. Il y a eu une année où l'Australie a eu 740 points des jurys professionnels, très belle chanson qu'on aurait pu écouter à la radio, 0 point du public. Pourquoi ? Parce que les gens avaient envie d'avoir de l'atypique. Et je pense que les Italiens, on rentre un peu dans ce cadre-là.
Donc là, effectivement, alors c'est vrai que c'était, moi j'ai regardé, hein, pour le coup, c'était très atypique. Hein. Il y a des trucs très, San Marin, c'était quand même très atypique. Niederlande, c'était très atypique, les Pays-Bas. Suède, c'était assez atypique.
L'Ukraine aussi, la Moldavie aussi, qui produit d'ailleurs chaque année des très très...
Les Allemands.
La Russe qui arrive dans son immense robe, etc. Tout ça, ce sont des choses.
Mais les Allemands, ils étaient dans un petit. Dans une main, il y en avait qui étaient dans une main. Non, écoute, franchement, je garde
avec
ça.
Avec un vœu d'honneur.
Oui, j'étais quand même très, très étonné de nos amis allemands. L'image que j'ai immédiatement de l'Allemagne. Bon, Pascal. Pascal, on va changer de sujet. On a terminé, je crois, avec l'Eurovision. Alors, comme on a terminé, on va écouter quelques notes de Barbara Pravi, peut-être grâce à Boris Pirédou, et on va remercier l'excellent Laurent Marsic, qui malheureusement n'a pas accompagné Barbara Pravi. Vous nous aviez fait rêver vendredi. Elle l'a bien chanté quand même, hein. Elle était sa performance samedi
magnifique,
soir, vous l'avez juste
aux yeux.
Ouais. Elle était vraiment dans le mood, comme on
dit. Exactement.
14h13.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors Pascal est là, on va parler de Lille, mais peut-être pas de l'aspect sportif, mais de la façon dont les Lillois ont célébré, les supporters, ce titre. Bonjour Pascal.
Bonjour Monsieur Pro.
Vous habitez Camargue.
Camargue, oui, région parisienne.
Dans le 92.
Exact.
Bon. Ça vous a plu donc hier soir? Non, ça vous a pas plu du tout en fait, ce que vous avez vu.
Je suis très content pour les Lillois, puisque ça change un peu d'avoir un nouveau champion par rapport à PSG. Fidèle supporter des Verts depuis plus de 45 ans quand même, mais un petit peu surpris, vu en direct à la télé, dont je ne citerai le nom, pour avoir vu quand même des Lillois pas masqués, distanciation, on la respecte pas. Il paraît qu'on est en couvre-feu. Là, il n'y en a plus. Que dire et que faire? Voilà.
Mais est-ce que vous vous dites que c'est grave, très grave, moyennement grave?
Non, c'est pas grave dans la mesure où, bon, je pense qu'on nous en dit un petit peu pas assez ou trop. Hein, je pense qu'on nous rabâche et puis je pense qu'il n'y a pas forcément toute la vérité. Mais moi qui suis, dans mon métier, je fais donc des miniatures de rallye et que le rallye au-dessus de l'île qui s'appelle le Touquet, donc on n'est pas loin, hein, du 59 au passant 62, le rallye va être à huis clos. Je ne crois pas quand même que dans la race campagne du Touquet et de ses alentours, on puisse choper donc ce virus, sachant que nous serons quand même masqués. Et puis les distanciations, vous comprenez bien que sur 25 km de spécial, on ne va pas être agglutiné comme là hier, quand on voit les images de Lille. Voilà.
Le PSG a été champion en 2013, 2014, 2015 et 2016, 4 fois consécutivement. En 2017, c'est Monaco. Puis PSG a été champion 3 fois de rang, 2018, 2019, 2020. Et en 2021, c'est donc Lille. C'est-à-dire que sur les 9 derniers titres de champion, PSG a été champion 7 fois. Et Lille et Monaco sont venus contrarier cette suprématie qui a commencé évidemment avec l'argent du Qatar qui est désormais dans les caisses du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup Pascal, on va peut-être parler quand même et rendre hommage, pourquoi pas, à ces Lillois. Philippe, voilà, Philippe et Lillois, vous êtes Lillois Philippe?
Oui Pascal, tout à fait, bonjour.
Bonjour, vous êtes commercial, donc vous êtes heureux évidemment?
Ah très, très 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 heureux. La dernière fois, c'était il y a 10 ans, donc là, c'est quelque chose de quand même assez fantastique.
Et vous acceptez la critique qu'on vous fait ce matin?
Franchement, en d'autres circonstances, oui, mais là, non. Normalement, je n'aurais pas accepté, en temps de Covid, cette liesse populaire. Mais là, je fais une exception, une entorse à la règle, et je pense que c'était difficilement contrôlable.
Bah, oui, je suis d'accord avec vous, mais par définition, la liesse, elle ne peut pas être contrôlée.
Ah oui.
Donc, derrière une victoire comme celle-là, on décide de ne rien faire. Parce qu'à partir de moment, c'est ce qui s'est fait à Toulouse d'ailleurs. Hein. À Toulouse, par exemple, on a fermé les bars et la victoire de Toulouse samedi n'a pas provoqué les mêmes débordements de liesse.
Moi, je pense que la mairie a fermé les yeux. Je pense que elle n'a pas pris les moyens pour vraiment empêcher les gens de fêter la victoire. Je pense qu'elle avait envie qu'il y ait cette liesse et c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'habite près de la Grand Place, là où se sont passées les festivités. Je ne serais pas descendu pour m'y mêler parce que j'aurais un peu peur, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup de bruit, quoi.
Le budget de Lille doit être 5 fois inférieur, j'imagine, à celui de Paris. On doit être dans du 100 peut-être, je ne sais même pas s'il y a 100 millions pour tout dire à Lille, c'est peut-être 80. Et à Lyon, à Paris, c'est toujours difficile d'avoir les chiffres, mais c'est peut-être 400, 500, hein, entre 400 et 500 en tout cas. Donc c'est absolument incroyable quand même. Tu as Neymar, tu as Verratti, tu as Mbappé. Sur le papier, la victoire de Lille... Il n'y a pas une probabilité sur 10 en début de championnat. Hein. Celui qui a joué Lille en début de championnat, il est milliardaire ce soir. Hein.
Oui, Lille a fait un superbe parcours, mais bon, on ne doit rien retirer à la victoire des Lillois. Mais est-ce que ce n'est pas le PSG qui a perdu un peu le titre aussi?
Ah bah forcément, ça c'est sûr que c'est forcément. Vous avez raison.
Mais ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Hein. Je pense que ça a été bon, ils ont gagné la Coupe de France, demi-finale de la Champions League. Mais en championnat de France, ça a été un parcours quand même très très chaotique. Quoi.
Je suis d'accord, ça a été laborieux. Merci en tout cas Philippe et bah, pour à tous les Lillois. Et je sais qu'on est très écoutés, RTL dans le Nord. Bah, écoutez, bravo, parce que c'est la victoire du collectif, de l'intelligence, de l'engagement. Et puis un homme, Christophe Galtier, qui est un entraîneur, j'ai envie de dire, à l'ancienne, avec beaucoup d'autorité, beaucoup d'engagement là aussi. Et le boulot qu'il a fait à Lille est exceptionnel. Champion de France, exceptionnel. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Grégory est avec nous, qui est supporter de Paris, oui. Lui. Donc, il doit avoir, entre guillemets, la gueule de bois. Bonjour.
Oui. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis supporter de Paris. Alors bon, bah c'est comme ça, mais quand même grand respect pour Lille, parce que même si j'aurais préféré que ce soit Paris, mais il faut quand même reconnaître que logiquement, sur toute la saison, Lille a plus mérité d'être champion de France que Paris. Bon, et puis on a quand même été gâtés toutes ces dernières années, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Bon, toutes ces années. Bon. Maintenant, Lille a fait un très beau championnat. Lille mérite son titre de champion de France. Alors je crois que mentalement, je parle pour Lille, après je parlerai pour Paris, mais je pense que mentalement, Lille a gagné le titre, alors que c'était pas encore officiel, mais mentalement ils ont gagné le titre quand ils ont gagné justement face à nous, face au Paris Saint-Germain, 1-0, la victoire en championnat. Et mentalement, Lille après n'a plus rien lâché, à part le match nul la semaine dernière face à Saint-Étienne, mais sinon ils n'ont rien lâché. Par contre, au niveau du PSG, je suis un petit peu d'accord avec l'opinion publique. Le PSG n'a pas perdu mentalement face à Lille le titre. Le PSG a perdu le titre de toutes ces défaites qu'on n'avait pas le droit de faire. Par exemple, je respecte beaucoup Lorient, mais on n'avait pas le droit de perdre face à Lorient alors qu'on menait 2-0. C'est Lorient qui gagne 3-2, donc on a perdu des points précieux. Face à Nantes aussi, c'est pareil, j'ai un grand respect pour Nantes. Mais Nantes était 19e du championnat. Et au moment où ils étaient 19e du championnat, on perd 2-1. En plus, Mbappé, qui est un super joueur, mais il a fait une superbe passe décisive au joueur nantais qui marque le but. Il l'a pas fait exprès, mais bien évidemment. Bon, ça arrive, mais je veux dire, on n'avait pas le droit de perdre tous ces points précieux. Donc oui, le PSG, on a perdu le titre. Voilà. Mais maintenant, bravo à Lille qui n'a rien lâché. Lille a été tout à fait super durant cette saison de championnat.
Enfin, c'est quand même pas une grande saison pour le PSG quand même. Quoi, c'est pas non plus une petite saison, mais quand y a que la Coupe de France à l'arrivée, c'est une forme de déception quand même que cette Ligue des Champions, surtout de la manière dont ça s'est fait. On a le sentiment que contre Manchester City, le PSG n'a quasiment pas existé, hein, disons-le, dans les deux rencontres. Donc
disons que le parcours global de la Ligue des Champions, c'est un super parcours puisqu'on est demi-finaliste. Mais en revanche, face à Manchester, déjà moi ce qui m'a pas plu, c'est la côté parisien, c'est la deuxième mi-temps, parce que jusqu'à la mi-temps, Paris, du match aller, Paris étouffait Manchester complètement, et puis à partir de la deuxième mi-temps, ça a été complètement l'inverse. C'est Manchester qui a étouffé Paris, et je pense que l'élimination était là, alors qu'il y avait mieux à faire. Il y avait vraiment mieux à faire dans cette Ligue des Champions, malgré que le parcours est très beau, demi-finaliste quand même, mais il y avait mieux à faire, et on a un sentiment qu'on n'a pas été jusqu'au bout, jusqu'au maximum de nos capacités. Même championnat de France, c'est un peu pareil, bon. Deuxième du championnat, c'est quand même beau, deuxième, mais
vraiment... Deuxième, quand tu as quatre fois plus d'argent, voire cinq fois plus d'argent, c'est pas assez.
Exactement.
Bah merci en tout cas, Grégory, vous êtes le dernier...
Merci à vous.
Dernier auditeur de la journée. Laurent Tessier va faire son débrief, le débrief de la Pentecôte.
Oh, il est de bon cœur.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Emmanuel Macron s'est livré au concours d'anecdotes des deux youtubeurs McFly et Carlito, une vidéo vue presque 8 millions de fois et on s'est bien amusé.
Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée ?
Allez-y.
Merci beaucoup.
Il va le faire en fait.
Elles sont belles, tes roulades.
Vous faites pas mal, tes roulades, vous.
Et de la bonne musique métal pour réveiller tout le quartier de l'Elysée. Et là, je peux vous dire que Charles n'a pas du tout aimé la vidéo.
C'est un exercice de communication creux et ridicule qui n'apporte aucune plus-value à la fonction présidentielle. Voilà.
Allez Charles, je sens que vous avez encore quelque chose à nous dire.
Pour moi, ça s'apparente à une soirée entre amis qui se lance des défis. Et je pense que cet exercice de communication d'opportunisme électoral visant les jeunes est affligeant. Voilà.
Ah, allez, une petite phrase de conclusion sur le sujet, Charles.
Vont-ils élire un président sur sa capacité à faire des jeux de société? Je trouve ça affligeant.
Et merci à Carlito, nous avons le même profil capillaire, d'avoir partagé cette réflexion.
Est-ce que je suis chaud?
Non, vous êtes rasé de près.
Merci, patron.
Et quelle époque tout de même, mon cher Pascal, un président avec des youtubeurs. Faites-nous rêver sur le monde de demain.
Peut-être que demain, le futur président de la République entrera à l'Elysée en trottinette. Ça sera ça, le monde de demain.
Ça sera un concept. Samedi soir, c'était l'Eurovision, la chanson de Barbara Pravi. Voilà, nous représenter. Engouement total. Et vous nous aviez prévenu, Pascal, vendredi.
Je trouve qu'on s'enflamme beaucoup. Visiblement, elle a déjà gagné avant d'avoir...
Comme toujours.
Bon, je crains le pire.
Et vous nous l'avez répété.
Si dimanche matin on n'a pas gagné, on va nous accuser de nous, médias, d'en avoir fait des tonnes.
Hein. Vous aviez raison d'être prudent, bon résultat.
Très belle médaille d'argent derrière l'Italie grâce à la candidate tricolore Barbara Pravi.
Ouais, la France échoue de justesse pour le titre suprême à l'Eurovision. L'Italie a remporté le concours avec un groupe de rockers, mais polémique. Depuis samedi soir, le chanteur va se soumettre à un dépistage de drogue après une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Ingrid a réagi au 32-10.
Cette polémique, elle est complètement injustifiée. Il n'y a rien qui prouve déjà que l'Italien s'est drogué. Ils ont été élus par un public, par des professionnels.
Et puis Lille, champion de France de football.
Chez le Nord.
Ouais, au jeu des pronostics, François Hollande est le meilleur. Il l'avait annoncé le 15 mars sur la chaîne L'Équipe.
Je pense que c'est Lille qui va la remporter.
Ah ouais?
Oui. Donc voilà, je dis Lille.
Ok.
Ok, François Hollande. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson pour tous nos amis du Nord.
C'est que c'est la chanson de Lens.
De Lens, petit clin d'œil. Mais pour tous les amis du Nord, quand même.
Je suis d'accord, mais là, vous leur
Lens
faites mal.
Lens qui a fait un très beau parcours en Ligue 1 aussi. Donc il faut féliciter Lens et Lille.
Flavie Flamand qui, elle, fait un tout beau parcours tout court. Un beau parcours tout court.
Fort bien.
À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole.